cours de philosophie première sur la personne par la paix Marie-Dominique Philippe à Rimont le 5 février 2002.
La dernière fois, vous avez parlé de l'importance de l'imagination pour la personne humaine. L'importance dans les deux sens. L'importance aussi du point de vue danger. Souvent, nous avons un regard plutôt négatif sur notre imagination, parce qu'elle a besoin d'être rectifiée. Quelle est la vraie place de l'imagination dans la personne humaine? Comment la situer par rapport aux différentes dimensions de la personne humaine? Vous la situez par rapport à la prudence. C'est la prudence qui règle notre imagination. C'est la prudence qui se sert de notre imagination. C'est pas l'intelligence, c'est la prudence. Quand vous devez communiquer ce que vous avez pensé profondément au plan métaphysique, vous vous servez de l'imagination. Oui, vous vous servez. Et c'est votre prudence. Parce que vous connaissez votre public. On ne parle pas de la même façon quand on fait un cours ici, ou à Saint-Gaudens, et une conférence à Paris. Pas du tout de la même façon. Qu'est-ce qui fait ce petit changement? C'est l'imagination. La vérité est la même. Vous cherchez tout le temps à communiquer la vérité. Là où on fait un cours Saint-Jean sur les trois sagesses, mais on essaie de communiquer la sagesse, la vérité à son auditoire, mais on la fait différemment. Quand on sent qu'on a un public très intelligent, on ne va pas parler comme à des gosses. Quand on a un public, au contraire, très simple, on prendra une imagination qui nous aide à pouvoir leur parler. L'imagination joue énormément comme, je dirais, comme une courroie de transmission. Elle permet de parler aux autres. Votre imagination joue toujours dans votre parole. Quand vous pensez, vous pouvez penser au-delà de l'imagination. Mais quand vous parlez, vous ne parlez jamais au-delà. Vous vous en servez. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est de voir la différence entre l'abstraction et la communication. L'abstraction, vous quittez l'imagination. Chaque fois que vous abstrayez, chaque fois que vous voulez penser métaphysiquement, ça vous arrive quand même de temps en temps, de penser métaphysiquement, vous essayez de séparer l'imaginaire et ce que vous pensez, le concept. Vous pouvez arriver, point de vue critique, à distinguer l'image et le concept. L'image, c'est l'imagination. L'imagination produit des images. Et des images qui aident à penser ou qui sont un obstacle à la pensée. parce que l'image est ou aide, incarnation, ou obstacle. Des gens qui ont une imagination folle n'arrivent pas à la métaphysique. Ils pensent toujours à l'animal qui bondit de colline en colline, et d'imagination en imagination, on n'arrive pas. On sent très bien que pour penser au point de vue profond, au point de vue métaphysique, il faut un certain calme. C'est très difficile de faire un cours de métaphysique quand vous prenez le train le matin et que immédiatement après vous êtes fait au cours. Difficile. Quand vous êtes dans le train, vous regardez le paysage, vous n'êtes pas au plan métaphysique. Vous regardez, c'est beau. Puis il y a un coucher de soleil magnifique, ou un lever de soleil étonnant. On se laisse prendre. L'imagination joue énormément dans notre vie. C'est la toile de fond. Alors, de temps en temps, on s'en sert pour la dépasser. Mais très souvent, on s'en sert pour communiquer. Quand vous faites une conférence, quand vous ferez des conférences, cours Saint-Jean, mais vous, au début, quand on quitte l'enseignement forcément abstrait de la métaphysique, de la philosophie, de la théologie, on a de la peine pour trouver les images. Alors on relit l'écriture qui nous donne des images. Et parce que on communique beaucoup par des images, alors qu'on communique aussi beaucoup par l'intelligence qui résonne. Vous voyez, l'imagination est analogiquement le corps de la pensée. Vous avez le corps qui aide d'exprimer votre affectivité, surtout. Eh bien, l'imagination nous permet de communiquer notre affectivité. Il y a un lien très fort entre imagination et affectivité. C'est pour ça que l'imagination joue un tel rôle dans la tentation. Les tentations sont imaginaires. Elles sont imaginaires. Et on a l'impression, vous voyez, comme quand on regarde le désert, qu'il y a des oasis à droite et à gauche. Il n'y a rien du tout, mais le phénomène de... Et c'est vrai, l'imagination, la folle du logis. Alors, c'est très important pour la communication. Et les grands orateurs, les grands avocats, sont tout le temps dans l'imaginaire. À la fin, ça vous agace. Parce qu'ils sont trop dans l'imaginaire. C'est comme, si vous voulez, un curé de paroisse qui voit que les gens ne comprennent pas la théologie, alors ils se rabattent dans l'imagination. Ils sont tout le temps dans l'imagination. Et notre rôle, c'est quand même d'élever. On prend les gens au niveau imaginaire. Le monde aujourd'hui est plongé dans l'imaginaire par le cinéma, par les affiches, par... C'est l'imaginaire qui joue. Un imaginaire érotique, très souvent. pour créer un climat érotique. Au cinéma, c'est très net. Alors, on crée ce climat-là et on n'en sort plus. Or, notre rôle, c'est de faire sortir les gens de l'imaginaire pour qu'ils arrivent à penser. Parce que quand vous êtes dans l'imaginaire, vous ne croyez pas. La foi est au-delà de l'imaginaire. Quand vous dites « Oh, c'est vrai, c'est dur, je suis dans la sécheresse », c'est tout simplement parce que vous êtes dans la foi. Et que votre imaginaire n'est pas là pour vous raconter, vous êtes dans la foi. Alors, je vais répondre « C'est très bien, on entre dans la foi ». Avant, j'étais dans l'imaginaire. Il y a une purification, il faut décanter. Ça m'a fait penser, c'est un fantasme comme ça qui passe. Exactement. C'était, je ne dis pas la personne, mais c'était un vieux château dans lequel il y avait toutes les armures anciennes du chef de famille. Et dans l'escalier, à chaque marche, il y avait une armure. Il y en avait au moins 15 ou 20. L'imagination, c'est l'armure. Et c'est pour ça que l'imagination, je ne le fais pas, mais serait très intéressant pour étudier le climat de culture du 19e et 20e siècle et 21e. Le climat érotique augmente et devient le climat normal. Vous voyez, c'est très curieux le lien de l'imaginaire et de la passion. Alors, vous avez tout de suite, nous le verrons, deux types de personnes avec le développement du concupiscible et le développement de l'irascible. Vous avez le conquérant et vous avez l'homme qui subit les influences, qui se laisse plonger l'influence. Et on passe facilement d'un concupiscible extrême à un irascible extrême. Les deux siennes. Et un irascible déchaîné. Les gosses aiment ça. Les coups de fusil, ils aiment ça. Et on les a habitués de jouer là-dedans. Et puis, comme disait l'autre, un petit gosse, une histoire terrible. Un gosse prenant un revolver, et puis tirant, s'amusait. Puis s'il y avait une balle. Et alors on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, j'attendais, tic, oh, c'est beau, ça faisait tic. Il y avait la balle qui partait. Ben, le gosse aime de vivre dans l'irascible. La conquête, le fantasme. Et très vite après, arrivé à un certain âge, le concupiscible n'est pas premier, c'est très curieux. C'est ordinairement l'irascible qui c'est. On a tous connu ça, notre petite période d'irascible, de conquête. On s'amuse, on aime d'abattre, de dominer. Et puis alors, il y a la période ensuite du concupiscible. Et celle-là, quand elle s'y va, on n'en sort plus. Et ça, c'est l'imaginaire. Hein. Notre imaginaire qui nourrit l'irascible, notre imaginaire qui nourrit le concupiscible. Et c'est deux imaginaires tout à fait différents. Et nous avons en nous les deux. Mais il y a sûrement, très nettement, des périodes d'irascible, des périodes de concupiscible. Et puis, une période de sagesse, où l'irascible et le concupiscible sont obligés de courber le nez et sont dépassés. Dans la sagesse, l'imaginaire se tait. C'est l'intelligence. Bon. Souvent, nous avons un regard plutôt négatif sur notre imagination. Oui, si nous sommes dans une perspective de sagesse, nous avons un regard plutôt négatif. Il faut dépasser cette montagne de l'imagination, ou cet abîme de l'imagination. Bon. L'imagination est en montagne, chez certains d'entre vous, l'imagination est en abîme pour d'autres. Alors, l'imagination abîme, ça fait très facilement, on se décourage, on n'en peut plus. Tandis que l'imagination conquérante, c'est une imagination qui nous exalte. Parce que l'imagination nous exalte, l'imagination creuse en nous des abîmes. Il y a les deux. Alors, si on est un peu poète, l'imagination nous aide beaucoup. Si on est prudent, l'imagination est tenue en laisse. Ceci, c'est très net. Deux types, le prudent et l'artiste. Et les deux font partie de notre personnalité. L'imagination, il n'y a pas tellement de traités d'imagination. Aristote est le premier qui l'a donné. Il y a un traité d'imagination chez Aristote. Et c'est très intéressant. Il y a un traité d'imagination chez Sartre, qui est très intéressant. Comparé. Petite dissertation qui est facile à faire et qui est très intéressante. L'imaginaire d'Aristote, l'imaginaire de Sartre. Alors il faudrait prendre un troisième, l'imaginaire d'un conquérant. Nietzsche. Vous aviez trois imaginaires là. Les trois imaginaires qui sont. Tous les trois transforment une personne. Alors, quand il n'y a que l'imaginaire, ce n'est pas personnel, c'est sûr. Mais l'imaginaire joue tout le temps et forme des types différents. Alors, ici, nous avons cette lutte très curieuse entre l'imaginaire et la prudence. C'est sûrement une lutte auquel nous pouvons assister à la prudence et à l'imaginaire. Un examen de conscience le soir. Qu'est-ce qui dans ma journée a été imaginaire? Qu'est-ce qui dans ma journée a été prudent? Qu'est-ce qui, dans la journée, a été selon la sagesse ? C'est un excellent examen de conscience. Parce qu'il faut avoir conscience. Nous avons en nous l'imaginaire, nous avons en nous la prudence, nous avons en nous la sagesse. Et tout cela fait partie de notre personnalité, c'est sûr. C'est pour ça qu'à côté du développement de la sagesse, il y a le développement prudentiel. Et le développement prudentiel, c'est le passage du spéculatif au pratique. Un homme prudent, c'est un homme qui regarde avec intelligence le pratique. Qui n'est pas passionné. Il a la passion. Pour être prudent, il faut la passion. Mais on n'est pas livré à la passion. On sait qu'elle existe. Chacun d'entre nous, nous devons connaître l'élément passionnel qui est en nous. Et l'élément passionnel, il vieillit. L'élément sagesse ne vieillit pas. Quand on atteint un certain âge, on s'en aperçoit très bien, ça. L'élément passionnel vieillit. Il est plus calme. Il existe, mais il est plus calme. Et donc la prudence prend une tournure différente. Un homme qui vieillit, il est prudent en allant toujours plus loin. C'était le conseil du médecin. Quand je lui ai demandé, est-ce que je peux prêcher la retraite ? C'était 3 jours après cette petite opération. Il m'a dit, si vous pouvez la prêcher, très bien. Si c'est trop difficile pour vous, ne la prêchez pas. Il n'a pas dit, oh non, surtout pas, il ne faut pas la prêcher. Puis il a ajouté, à votre âge, si vous commencez à dire, ceci est trop difficile pour moi, vous dégringolez. Si au contraire, vous maintenez, ceci est peut-être difficile, mais je l'aurai. Vous ne diriez pas. Et avant, c'était très sage. La prudence est différente. La prudence est différente. Elle est, quand on a 45 ans ou 50 ans, c'est-à-dire le plein développement, et puis la prudence quand on a 80, 90, vous voyez, c'est très curieux du reste, parce que ça montre combien la prudence est, je dirais, c'est ce qui permet à la vie intellectuelle l'affectivité de sagesse de se traduire dans le concret. C'est le passage, la prudence, c'est le passage de la finalité au moyen. Ça, c'est un mal pour tout de suite. Pour être prudent, il faut savoir que notre vie est finalisée. Et de maintenir que notre vie est finalisée. L'imprudence suprême, c'est de ne plus regarder la fin. Ça, c'est l'imprudence suprême. L'imprudence. L'homme prudent regarde sa fin. Et plus il vieillit, ou plus il devient prudent, c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses qui sont très souvent assimilées. Oh, c'est pas étonnant. Vous êtes prudent à cause de l'âge. Non, l'âge ne me rend pas prudent. L'âge me rend vieillard, mais ne me rend pas prudent. La prudence du vieillard, c'est une prudence de conquête. La prudence du jeune, c'est une prudence qui empêche le cheval d'aller au galop. Il tient les rênes. L'homme, à 40 ans, il tient les rênes quand il est prudent. Parce qu'il sait très bien qu'il pourrait donner en plus. Il ne veut pas aller plus. Il ne veut pas tout donner dans une seule activité. Alors il mesure. Mais c'est très différent. C'est pour ça que c'est normal. Les vertus sont différentes selon notre âge. C'est très différent. Les vertus du jeune homme, de l'homme mûr et du vieillard. Et ça montre combien les vertus sont dépendantes du devenir et du temps et des forces que nous avons en nous. Donc la prudence, c'est connaître sa finalité, connaître ses forces, son capital de force, et l'adapter au choix de certains moyens qui nous permettent de réaliser cela. Donc la prudence, elle est faite pour que nous puissions avancer avec le capital de vie qui diminue et qui cependant demande d'être exploité. L'homme prudent exploite tout son capital. S'il est vraiment prudent, il exploite tout son capital. Mais il l'exploite de façon différente. Parce que il doit connaître son irascible, il doit connaître son concupiscible, il doit connaître sa puissance intellectuelle, le besoin qu'il a de contemplation. Et le besoin qu'il a de communiquer aux autres. Vous voyez, c'est difficile. C'est la vis qui unit en nous ce qui est la vie contemplative et la vie active. C'est la prudence qui fait ce partage et qui maintient ce partage en nous. Donc, concrètement, si vous voulez, la prudence, pour nous, c'est comprendre l'exigence de la contemplation et l'exigence de la vie apostolique. Pour que nous maintenions un équilibre, une harmonie, c'est plus juste, parce que l'équilibre, c'est trop équilibre. C'est une harmonie active. On est imprudent quand on met toutes ses forces d'un côté ou toutes ses forces de l'autre côté. Vous voyez, quand il n'y a pas, justement, cette possibilité de voir en fonction de notre fin ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons réaliser. Donc, c'est l'équilibre entre les moyens et la finalité, tout le temps. Or, les moyens varient énormément dans notre vie. Quand nous sommes jeunes, quand nous avons encore un capital de vie, pétillant. Et ce que nous sommes capables de risquer. Je crois qu'on ne cultive pas assez sa prudence. Parce que ça s'acquiert. Hein. Ça s'acquiert par le fait même dans notre vie, l'équilibre contemplatif, l'équilibre apostolique se fait par la prudence. Alors là, il s'agit du point de vue surnaturel, d'une prudence infuse, c'est sûr. Mais au point de vue humain, philosophique, c'est la grande vertu. C'est pour ça que les anciens considéraient que la prudence, c'est la sagesse pratique. C'est la sagesse pratique parce que elle met tout en harmonie. Elle met en harmonie notre soif de communiquer, de faire quelque chose, de réaliser. Alors on le réalise par des écrits, des petites dissertations, pas uniquement celles qu'on vous demande de faire obligatoirement. Vous, un petit sujet intéressant, on va aller jusqu'au bout, on va le réaliser. On prend ses initiatives, on prend des initiatives pratiques, parce qu'on sait qu'on doit réaliser quelque chose. Un homme, dès qu'il réalise quelque chose, il a confiance en lui. Or, quand on est étudiant trop longtemps, ça arrive ça, parce qu'on entre en vie religieuse d'un âge plus, on est plus jeune, et on recommence à être étudiant pendant 3 ans, 4 ans. C'est pas normal. Nos contemporains, qui ne sont pas entrés en vie religieuse, sont pères de famille, gagnent leur vie. Et travaillent. Font quelque chose. Et nous, on continue. D'être étudiant. N'a rien fichu. On continue d'être étudiant. Il y a une chose anormale. Il y a une chose anormale, on devrait être très attentif à ça. Parce qu'un homme de 35 ans, de 30 ans, demande d'organiser sa vie et de faire quelque chose. Un homme de 20 ans, 25 ans, ça va, ça va. 27 ans, 30 ans, ça commence à ruer dans les regards. Alors pour que ça ne rue pas, pour que la prudence continue, ben oui, il faut équilibrer notre vie, notre petite barque, il faut l'équilibrer. Il y a en nous un potentiel contemplatif, il y a en nous un potentiel actif, et qui n'est pas le même chez chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce que vous entrez dans la même congrégation que vous avez tous le même potentiel actif et contemplatif. Non. Vous restez avec un atavisme, vous restez avec une formation antérieure. Et donc pour chacun d'entre nous, c'est différent. Alors il faut obéir et en même temps être prudent. Quelquefois, obéir d'une façon trop passive n'est pas prudent. C'est pas commode. Il faut pouvoir obéir d'une façon intelligente. Et d'une façon intelligente, c'est dire la réaction que nous sentons dans les études. On subit des cours. subir des cours à 20 ans, 25 ans, c'est normal. Mais sur des cours plus âgés, c'est anormal. On le fait par vertu, mais attention, ce qu'on fait par vertu, ça ne peut pas durer très longtemps. Elle est dans le temps. Donc il faut qu'on sache qu'il y a un moment où ça risque de ne plus aller très bien. Alors à ce moment-là, ne plus aller très bien, c'est tout de suite les défauts de notre tempérament qui se manifestent. Et la prudence est faite pour se connaître, connais-toi toi-même. La grande affirmation des anciens, connais-toi toi-même. Connaître son potentiel actif et son potentiel contemplatif. Moi, je crois beaucoup que la prudence, ça doit être ça. Petite sagesse pratique. Et on doit, par le fait même, essayer de trouver l'équilibre, un équilibre actif, pas un équilibre passif. Un équilibre actif, un équilibre qui progresse. On doit être toujours dans une croissance. Et l'équilibre entre le point de vue contemplatif et le point de vue actif doit être bien vu pour qu'il puisse y avoir une croissance. Autrement, il y a un retour sur soi et on est déséquilibré. Il n'y a plus assez d'élan. Et il n'y a plus assez de conquêtes. Nous avons besoin, un très grand besoin, d'être conquérants. Conquérants de soi-même. Conquérants de tout ce qui est en nous et qui peut se développer en nous. Nous avons besoin constater certains fruits pour se donner confiance à soi-même. Quand on ne constate aucun fruit, ça tient un certain moment, mais arrivé à un âge où normalement l'homme est père, la femme mère, le fruit. Vous voyez, le fruit tangible de notre activité, ça fait partie de la prudence. Est-ce qu'il y a un fruit intellectuel? On a écrit quand même quelque chose sur le courage. Dans ma vie, on a écrit quelque chose sur la patience dans ma vie. Avoir un petit fruit, c'est beaucoup, parce que c'est jamais si. Pour nous, l'enfant produit, l'enfant intellectuel, le petit fruit qu'on a produit, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur au monde. Un père vis-à-vis de son fils quand il est petit, parce que quand il devient rival de son père, c'est différent. Mais quand il est petit et quand il dépasse son père, alors le père le supporte très difficilement. Il ne faut jamais dépasser son père. Il le supporte très difficilement. L'enfant est toujours considéré comme un petit génie. parce que le père se retrouve dans son enfant. Alors, nous n'avons pas d'enfant. Et avoir des enfants, ça équilibre beaucoup. Pour une mère, ça équilibre. Pour un homme, ça équilibre. Alors, la prudence, voyez, la prudence monastique n'est pas la même que la prudence de l'homme politique, de l'homme père de famille. Et c'est la prudence. La sagesse est la même. Et c'est très vrai. C'est pour ça qu'un religieux doit faire grande attention quand il prêche sur la prudence. Quand il prêche sur la sagesse, ça va. Parce qu'il est sûr qu'il est seul à en vivre. Alors, il peut y aller. Tandis que la prudence, c'est la sagesse de tout le monde. Et là, il ne faut pas heurter, vous n'avez pas à prêcher votre prudence. Vous devez prêcher la prudence humaine, en sachant que votre prudence à vous, elle est très spéciale. Est très spéciale. Et elle doit maintenir un équilibre entre la finalité et l'efficience. L'homme prudent est un homme qui voit la distinction entre la finalité. Parce que sa vie doit être complètement finalisée. Et l'efficience, la réalisation. L'efficience, c'est la réalisation concrète. Il faut toujours qu'il y ait dans notre vie les deux. C'est sûr. Et une efficience. Une fabrication, la fabrication, l'efficience, faire quelque chose. Et puis, l'aspect finalité, où on ne fait rien. On se laisse prendre par l'amour. On ne réalise rien. Mais intérieurement, on se transforme. Et au fond, la prudence va être un équilibre entre les deux. C'est pour ça que c'est si rare un homme prudent dans le monde d'aujourd'hui. Parce que où vous avez des gens qui ne sont que pour l'efficience, le business, uniquement ça. Réaliser quelque chose. Et vous oubliez complètement la finalité. Vous avez des gens qui sont entièrement basés là-dessus. Bon. Ils se sont eux-mêmes, ils se sont divisés en deux. Ils ont laissé tomber toute la partie affective. Alors à 45 ans, 50 ans, c'est affolant. Ils divorcent. Et la plupart des divorces viennent de ça. Affectif, effectif. Vous voyez, le point de vue affectif, on ne l'a pas cultivé du tout. On s'est jeté dans l'efficience et on a été le plus loin possible dans l'efficience. Réaliser le mieux possible pour devenir maître de soi, maître de son histoire, d'âme et du passé. La finalité, on aime, on est pris par l'amour d'une personne, Dieu, Jésus, Marie, ou une personne qu'on aime humainement. Il y a une certaine affectivité bonne et grande. Vous voyez, l'équilibre entre l'affectivité et l'efficacité dans votre vie actuelle. Il est sûr que au noviciat, la formation après, le point de vue intérieur, le point de vue de l'affectivité, de l'amour, de la contemplation domine. Le point de vue réalisation concrète, il doit exister, on en a besoin. Il faut, il existe d'une façon ou d'une autre. Oui, au noviciat, ou dans, du moins au, dans la formation après, on vous demande telle ou telle chose à réaliser. Ça vous aide. Si vous êtes très porté sur les études, vous avez la tentation tout porter sur les études. Alors quand il y a un crack, ça ne va plus, tout tombe, parce qu'il n'y a pas autre réalisation. Il faudrait, vous voyez, c'est l'équilibre de la prudence. C'est pouvoir, dès qu'on le demande dans l'obéissance, pouvoir modifier notre équilibre de vie d'une façon presque complète. Si on est vraiment conscient de ces deux aspects, parce qu'il y a des situations où le point de vue de l'équilibre contemplatif, le point de vue affectivité peut se développer énormément et nous soutenir, et être notre finalité, et nous suffire. Le point de vue affectivité peut nous suffire. Le point de vue efficacité ne nous suffit jamais. Totalement. Je ne peux pas ramener ma vie à l'efficacité, tandis que je peux la ramener à la contemplation. Et la prudence consiste à bien équilibrer dans le potentiel, la richesse que j'ai en moi, ces deux forces.